Merci. Je voudrais montrer comment ce qu'on peut appeler du commun est depuis 60 ans, 70 ans, l'enjeu d'un conflit de classe. Je vais donc faire une lecture marxiste de ce conflit. dont le cœur, c'est la définition du travail. C'est-à-dire de la production de valeur économique. Si on distingue l'activité, qui est production de valeur d'usage, toute notre vie éveillée globalement, sauf quelques fonctions physiologiques ou situations de stricte consommation, consiste à être actif, à produire des valeurs d'usage. Et une partie de cette activité va être considérée par convention, mais une convention qui est justement le cœur de la lutte de classe, comme du travail, c'est-à-dire comme ajoutant à la production de valeur d'usage une production de valeur économique, évaluée par de la monnaie, exprimée par de la monnaie plutôt, évaluée par, par cet enjeu du conflit, justement. Et je vais en parler. Et au cœur de cette affaire, il y a une articulation entre la cotisation sociale et l'impôt. La cotisation sociale, en partie, et l'impôt, en partie, changent la définition capitaliste du travail. La définition capitaliste du travail repose sur quatre institutions, fondamentalement. D'une part, qui étaient construites pendant à peu près cinq siècles, hein, c'était une longue construction, le droit de propriété lucratif, qui fait qu'on peut tirer un revenu d'un patrimoine, le marché du travail, et qui fait que les non-propriétaires ne peuvent être reconnus que indirectement comme producteurs en allant vendre une marchandise sur un marché du travail qui n'existe que dans le capitalisme, leur force de travail qui devient une marchandise et qui, si elle est achetée, va produire, alors là c'est la troisième institution, selon une mesure par le temps de travail, mesure de la valeur par le temps, produire une valeur qui, supérieure à celle de cette marchandise force de travail, supérieure au salaire, permettra le profit du propriétaire lorsqu'il vend les marchandises. Bon, je reprends l'explication marxienne tout à fait classique. Toute autre activité, tout ce qui ne se fait pas par présence sur un marché du travail pour produire des marchandises capitalistes qui mettent en valeur du capital, c'est de l'activité utile, mais non productive. Ce que la cotisation et l'impôt inaugurent, mais pas toute la cotisation et tout l'impôt, c'est la possibilité d'instituer, s'il n'y a pas institution, évidemment, rien ne se passe, d'instituer une autre matrice du travail que la propriété lucrative. Je ne parle pas de propriété privée, hein. Je parle de propriété lucrative, on pourra voir pourquoi par la suite ou dans le débat. Le marché du travail, la mesure de la valeur par le temps de travail et, quatrième institution, je n'ai pas parlé, la création monétaire par crédit, mais... Enfin, le financement de l'investissement par crédit, c'est quand même également très décisif. Je désigne ici la partie de la cotisation et de l'impôt qui vont payer des salaires. C'est l'essentiel, au demeurant. Hein. Mais ce n'est pas le tout. Une partie de la cotisation est de la dépense publique, puisque... on va substituer à l'acheteur sur un marché du médicament, par exemple, un acheteur collectif, la sécurité sociale, parce qu'on estime que l'allocation marchande du médicament n'est pas légitime, etc. Ou, de même, l'achat d'armement à Dassault va se faire par un acheteur collectif. Là, nous sommes dans la dépense publique. L'impôt, c'est bien une ponction sur la valeur que crée le contribuable pour qu'il délègue à un acheteur collectif l'achat de biens dont il va bénéficier, mais qu'il n'achète pas sur le marché. Cette partie-là de l'impôt ne m'intéresse pas, pas plus que cette partie de la cotisation qui sert à acheter des médicaments à Sanofi. Là, nous sommes encore une fois dans la dépense publique. Mais le gros intérêt de la cotisation comme de l'impôt, c'est d'inaugurer une production de valeur économique en payant des travailleurs qui ne relèvent pas du marché du travail, qui ne mettent pas en valeur de capitaux, qui ne produisent pas de marchandises et qui ne sont pas financés par du crédit, s'agissant de l'investissement. Non pas par une opération du Saint-Esprit, non pas par un nominalisme qui ferait que, appelant salaire une prestation, elle devient la reconnaissance d'un travail, hein, mais parce qu'il y a une institution, un travail d'institution, le travail qu'a fait, on va dire, la classe ouvrière jusque dans les années 70, depuis un peu dans les choux, hein, qu'a fait qu'ont fait les partis de gauche jusque dans les années 70 à peu près. Une institution, d'autres matrices du travail que le marché du travail, le salaire à vie des fonctionnaires, qui n'a rien à voir avec le marché du travail, l'absence de propriété lucrative dans des services publics, dans des institutions de sécurité sociale, la mesure de la valeur par la qualification du producteur et non pas par le temps de travail. Quand on voit comment la contribution de l'administration au PIB est calculée, comment est-ce qu'on fait ? On additionne les salaires des agents publics. Or, la majorité des agents publics sont des fonctionnaires, en tout cas encore en France. Et les fonctionnaires sont des gens qui sont payés non pas pour leur poste, mais pour leur grade. La LRU, évidemment, fait partie de l'armement pour transformer les présidents en employeurs et faire en sorte que les personnels de l'université ne soient plus des fonctionnaires payés pour leur grade, mais des employés avec un employeur payé pour leur poste, ça bien sûr. L'entreprise réformatrice est là en permanence, mais elle montre bien, justement, hein, le caractère révolutionnaire de ces institutions de 45. Et non pas leur caractère fonctionnel, comme on le voit chez les régulationnistes, Castel, en fait, etc. etc. Financement de l'investissement hors crédit, vous avez l'entreprise stupéfiante des CHU dans les années 60. Il faut voir ce qu'était l'hospitalisation dans les années 50. C'était des mouroirs. L'opinion populaire, d'ailleurs, était claire. On l'a encore dans les romans, dans les pièces de théâtre. Surtout pas à l'hôpital, on en sort les pieds devant. Cette sanitarisation de l'appareil de soins, à partir des CHU, en salarisant l'élite du corps médical, enfin, toutes choses qui ne se sont pas faites toutes seules, ça a été financé comment ? Pas par appel au marché des capitaux, pas par la propriété lucrative. Ça a été financé, comme le fait aujourd'hui, la CADES. Bien sûr, en finançant les hôpitaux par appel au marché des capitaux avec les beaux résultats que nous savons aujourd'hui. Ça s'est fait par la hausse du taux de cotisation maladie, hein, qui a permis de financer l'investissement hospitalier sans crédit. Hein, les dotations de la sécurité sociale aux hôpitaux n'ont pas à être remboursées. Hein. On a inventé une autre logique que le crédit pour financer l'investissement. Donc, il y a une invention émancipatrice radicale, hein, qui passe à la fois par l'impôt et la cotisation. Je les mets dans le même sac avant de les opposer, hein, parce qu'il faut expliquer aussi pourquoi aujourd'hui les réformateurs veulent remplacer la cotisation par l'impôt. C'est donc que la cotisation est encore plus horrible pour eux que l'impôt, hein, même s'ils n'aiment pas l'impôt non plus. Ce qu'ont de commun la cotisation et l'impôt, la question de la façon dont nous le lisons est évidemment décisive, c'est pas là de permettre la reconnaissance de besoins sociaux qui repose sur une définition anthropologique qui fait de nous des êtres de besoin, c'est-à-dire ce que le capital fait de nous. Nous sommes des forces de travail qui avons droit du pouvoir d'achat. Le salaire, dans la définition capitaliste, c'est le prix de la force de travail, c'est-à-dire le pouvoir d'achat nécessaire à sa reproduction, pour qu'il puisse acheter les biens de culture, de formation, d'habillement, de logement, de transport, etc., nécessaires à sa reproduction. Donc, faire de nous des êtres de besoin, c'est également lire la cotisation, tout comme on va lire le salaire direct comme du pouvoir d'achat, hein, c'est lire la cotisation comme la reconnaissance de besoins sociaux, sans voir que la cotisation, c'est la reconnaissance d'activités que, en la reconnaissant, qui, parce qu'elles sont reconnues dans le cadre d'un salaire, connaissent un début d'institution, encore une fois, nous avons une lutte de classe forcenée aujourd'hui sur ces questions-là, hein, connaissent un début d'institution, les institutions, il faut des siècles pour les constituer, donc ça ne va pas se faire en 5 minutes, hein, mais ça se fait quand même déjà depuis un siècle dans l'Europe bismarckienne, ce qui est tout à fait intéressant, déjà un siècle d'antériorité de ces affaires, qui commencent à instituer la cotisation à la place des marchés financiers, le salaire à vie à la place du marché du travail, la production sans mettre en valeur de capitaux à la place de la propriété lucrative. Bref, des innovations sociales considérables que l'on peut rapporter au commun, parce que, aussi bien pour la partie de l'impôt qui paye des fonctionnaires que pour la cotisation sociale, on ne peut pas parler de public. On ne peut pas parler d'État. Ce qui caractérise un fonctionnaire, c'est d'abord qu'il n'a pas d'employeur. C'est d'abord sa liberté dans le travail. C'est d'abord l'absence de subordination, non pas l'absence de chef, l'absence de hiérarchie. Là, nous sommes dans la production des valeurs d'usage. Tout travail produit des valeurs d'usage et il faut une hiérarchie pour produire des valeurs d'usage. Il faut des collectifs, etc. Mais dans la production de valeurs économiques, il n'y a pas de subordination. Et rapporter ça à une espèce de Léviathan qui serait l'État me paraît extrêmement excessif. Je vois plutôt dans la fonction publique une émancipation du travail grâce au salaire à vie et grâce à l'absence d'employeur. C'est pour cela que, depuis Rocard, il y a un tel acharnement. Dreyfus a montré comment Rocard est celui qui introduit le terme « ressources humaines » dans la fonction publique. Ensuite, c'est la loi, c'est la LOLF de Jospin, puis la RGPP, les RGPP et les rues, puis MAP, loi Fioraso. Là, c'est l'acharnement réformateur pour en finir avec le salaire à vie et l'absence d'employeur. Il faut des... Et vous voyez comment l'absence d'employeur et le salaire à vie supposent ce commun particulier qui est la mutualisation à l'échelle nationale du salaire. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel acharnement réformateur à faire des dotations budgétaires à chaque établissement pour qu'on revienne à la logique capitaliste d'attribution microéconomique du salaire sur un marché du travail. Alors que l'impôt comme la cotisation sont une mutualisation à l'échelle nationale qui rend possible le salaire à vie puisqu'il ne dépend pas de la bonne ou mauvaise santé de l'entreprise dans laquelle on est, puisqu'on est dans la mutualisation. On voit les effets absolument désastreux d'affecter les budgets aux universités puisque, du coup, les emplois, etc., deviennent dépendants de la bonne ou mauvaise santé microéconomique de l'entreprise. Ce que fait de commun, hein, fondamentalement émancipateur, la cotisation sociale et l'impôt, c'est cette mutualisation de la valeur ajoutée qui déconnecte l'attribution du salaire d'un rapport microéconomique à un employeur et qui rend possible le salaire à vie déconnecté de l'emploi. la cotisation le fait pas simplement pour les fonctionnaires de la santé, mais la cotisation le fait aussi pour les parents. On est très insuffisamment attentif parce que on est hélas victime d'histoire de la sécurité sociale hautement fantaisiste au fait que le cœur de la sécurité sociale jusque dans les années 50, ce sont les allocations familiales. Les allocations familiales, je vais droit au but, hein, parce qu'on n'a pas le temps en une demi-heure de rappeler toute l'historique. Vous avez ça dans Puissance du salariat, si vous voulez y aller voir de plus près. Mais les allocations familiales, c'est, à la fin des années 40, la moitié du salaire des familles populaires, ouvriers, employés, la moitié. Les statistiques existent, hein, tout ça est évidemment vérifiable. C'est-à-dire que les allocations familiales, ce n'est pas du tout un droit de l'enfant. Ça aurait pu naître dans une logique d'aide sociale, comme ça a été le cas dans beaucoup de politiques familiales. Ce n'est pas du tout. Hein. Pour des raisons diverses et variées sur lesquelles je ne peux pas revenir, il se trouve que les allocations familiales, ce n'est pas propre à la France, en Allemagne aussi, en Belgique, etc., sont financées par du salaire. Et ce salaire... C'est l'occasion, à condition qu'il y ait une classe révolutionnaire qui assume, s'il n'y a pas de classe révolutionnaire qui assume et qui institue des situations nouvelles, elle peut poser des actes qui sont émancipateurs et qui n'ont pas de suite, parce qu'elle n'a pas poursuivi ce travail d'institution. La classe capitaliste s'est constituée par un long travail d'institution, dont Hobson et autres nous ont montré l'énormité et la longueur. Il y a un travail d'institution de ce que, enfin une activité d'institution qui fait que, en attribuant la moitié du salaire des familles populaires, non pas à des gens parce qu'ils sont employés, mais parce qu'ils sont parents, on déconnecte le salaire de l'emploi et on reconnaît comme productrice de valeur, on commence à reconnaître. Encore une fois, les choses ne peuvent pas se faire par une opération nominaliste, évidemment. On commence à reconnaître, si bataille de classe est menée, et elle l'a été, incontestablement, c'est pour ça qu'elle est complètement enfouie et niée derrière l'idée que c'est Larocque qui a fondé la Sécu, ou De Gaulle, je ne sais pas quoi, que c'était les régulationnistes qui expliquaient ça en disant que c'était le Fordisme, ou je ne sais pas quoi, enfin bon. Je laisse tomber ces âneries, mais nous instituons donc dans les années 40, et l'aquarise a montré l'énormité du conflit qu'il y a eu autour de ça, l'activité des parents comme travail. C'est pour ça que les réformateurs s'attaquent d'abord à cela. Et Rocard transforme en CSG la cotisation, ça ne relève pas du travail, par une lecture de la sécurité sociale comme la couverture de besoins, hein, cette anthropologie misérable, hein, qui fait de nous des êtres de besoins. Hein. Alors que, et c'est tout le combat de la classe ouvrière, hein, quand on lit tous les textes de la classe ouvrière, quand elle est révolutionnaire, c'est-à-dire entre 1920 et 1980, à peu près 70 en France, c'est « nous sommes les producteurs de la valeur ». Ils ne se posent pas comme des êtres de besoin et en droit du pouvoir d'achat. Vous ne verrez jamais le vocabulaire de la pauvreté dans un tract syndical de la CGT. Ça apparaît dans les années 70, quand ça commence à se débiner. Ce n'est pas des pauvres, ce n'est pas des sans. On ne se pose pas comme des gens en manque, qui ont droit à des besoins. Le syndicat n'est pas une organisation de défense de victimes. C'est ce qu'il est devenu, c'est ce qui fait qu'il est impuissant aujourd'hui. Non, c'est l'affirmation que nous pouvons créer une autre matrice du travail que le marché du travail, la propriété lucrative, le crédit pour financer l'investissement et la mesure de la valeur par le temps. Et c'est déjà largement entamé, d'où le conflit irréductible avec les réformateurs depuis 30 ans. j'ai nommé les allocations familiales. Très vite, elles ne vont plus être indexées sur les salaires, alors qu'en 1946, elles sont indexées sur les salaires, c'est un élément du salaire indexé sur les salaires. prenons j'ai fait allusion ensuite à la progression dans les années 60 de l'assurance maladie, de la cotisation maladie, qui, contre la comptabilisation antérieure, hein, si on prend le PIB tel qu'il est compté, il faut aussi faire toute une histoire de la cantonade, bien sûr. Je vous renvoie soit à mon propre travail, soit à l'excellente thèse que vient de rédiger, il n'est pas encore publié, Yann Le Lan sur l'histoire de la cantonade en matière de sécurité sociale en France, depuis 1944 jusqu'à nos jours. les soins infirmiers, les soins en général qui étaient considérés, qui n'étaient pas dans le PIB, qui étaient considérés comme quelque chose d'utile mais non productif, intègrent le PIB dans les années 60, à l'époque, comme contribution à la production de valeur, à l'époque même où ce qui finance cette production de valeur économique, c'est une cotisation, et ce qui produit cette production, c'est des fonctionnaires ou des conventionnés de secteur 1, le secteur 2 sera inventé plus tard, ce qui montre que le salariat ne se réduit pas à des gens qui ont un contrat de travail. Un médecin libéral, conventionné de secteur 1, rentre dans le salariat. Il est dans cette logique du commun, précisément. Où nous n'avons plus l'allocation microéconomique de la valeur. Mais nous avons une mutualisation de la valeur à l'échelle nationale. C'est pour ça que la cotisation interprofessionnelle à taux unique est au cœur de la sécurité sociale. C'est pour ça que les réformateurs veulent mettre du pollueur-payeur partout. Bien sûr. Moduler les cotisations selon le bon ou mauvais comportement de l'employeur. Là, nous sommes dans l'antithèse de la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est du commun qui, précisément, parce qu'il mutualise la valeur ajoutée comme salaire, permet, s'il y a bagarre de classe par une classe révolutionnaire, c'est tout à fait évident, je ne suis pas dans le nominalisme, je ne suis pas non plus dans le passage de la limite de Dardot et Laval, vous comprenez, parce que ça, c'est quand même, c'est pas sérieux, je vais dire, d'accord.
Je suis d'ailleurs affligé de cette espèce de cécité sur ce que notre histoire a produit. Cécité absolue.
Incompréhension. Tout ce que je raconte là n'est jamais mobilisé. Enfin, c'est invraisemblable. Donc, sans faire ces passages à la limite qui, à mon avis, ne servent à rien, nous pouvons montrer comment le commun aujourd'hui est bien l'objet d'une lutte de classe. Et j'essaie d'en cerner quelques contours. Est-ce que les parents produisent ou pas? Donc, est-ce que c'est un impôt de solidarité qui doit financer des besoins des familles, ou est-ce qu'il s'agit que du salaire reconnaisse le travail des parents? Est-ce que les soignants produisent ou pas? Donc, est-ce que c'est un impôt de solidarité avec les malades qui doit financer l'assurance maladie, ou est-ce que c'est du salaire qui reconnaît le travail de gens qui n'ont ni employeur ni actionnaire et dont la valeur n'est pas mesurée par le temps? Et dont l'hôpital n'est pas financé par crédit. Est-ce que les retraités relèvent de la solidarité intergénérationnelle ou est-ce qu'ils relèvent du travail et donc du salaire? Alors là, on n'est pas dans le conflit entre impôts...
Il faut accélérer.
D'accord, je termine. J'ai 10 minutes encore, c'est ça?
Un peu moins.
Un peu moins, d'accord. On n'est pas dans le conflit entre impôts et salaire, là, on est dans et cotisation. On est dans le conflit entre deux modalités de cotisation. La cotisation salaire, celle qui paye des salaires, et la cotisation prévoyance, celle qui assure un revenu différé. Et là, c'est le cœur de la lutte de classe s'agissant des retraites. En matière de retraite, les réformateurs ne préconisent pas qu'un impôt se substitue à la cotisation. Ils préconisent un changement de cotisation. L'essentiel du régime de retraite aujourd'hui repose sur une cotisation salaire, c'est-à-dire une cotisation qui a comme objet de remplacer le meilleur salaire, comme salaire de référence. C'est là-dessus que s'est construite toute la bataille syndicale autour de, du modèle de la fonction publique, hein, qui lui est créé en 1853. Vous comprenez pourquoi c'est normal que les fonctionnaires aient une pension qui soit la poursuite de leur traitement, puisqu'ils sont payés pour leur grade et non pas pour leur poste. Donc, un fonctionnaire qui a fini son service a toujours son grade, donc il est payé à vie. Hein. La fonction publique, c'est l'invention du salaire à vie. D'où l'acharnement réformateur contre la fonction publique, bien sûr. Pas contre les services publics, mais des services publics sans fonctionnaires, assurés par l'ESS, s'agissant des services territoriaux, hein, plus de fonctionnaires, mais toujours bien des services publics. Et s'agissant de la fonction publique d'État, la création progressive d'employeurs. Là où il n'y en a pas. Le refus de négocier sur le point, hein, qui exprime l'indice, et négocier sur des primes, qui expriment le poste. Et donc, il nous met dans une logique d'emploi, là, une logique de grade. S'agissant de la retraite, vous avez une construction qui est la revendication qu'à 55 ans, on est droit à 75% du meilleur salaire brut. Voilà la revendication syndicale constante. Qu'est-ce que ça veut dire? 75% du meilleur salaire brut, c'est poursuite à 100% du meilleur salaire net, puisqu'il y a 22% de cotisation salariée, 23%. Donc, il y a une revendication que la pension doit être la continuation du salaire. Le terme essentiel, c'est taux de remplacement. Et donc, la cotisation, elle finance du salaire à vie. Ce qui se passe lorsqu'on prend sa retraite, dans le privé, on passe d'un salaire lié au poste, lié à l'emploi, lié à la subordination employeur, à un salaire à vie, parce que le salaire devient un attribut de la personne. Donc là, vous voyez comment cette cotisation, mais parce qu'elle est du commun, encore une fois, c'est impossible s'il n'y a pas mutualisation de la valeur ajoutée à l'échelle nationale, hein, c'est impossible. Hein. C'est pour ça que les systèmes beveridgiens ne peuvent pas du tout assumer ça, puisqu'ils ignorent la cotisation interprofessionnelle. C'est pour ça qu'ils sont loués en permanence, hein. À bas Bismarck, vive Beveridge. Le moindre d'entre nous qui est passé par un cours sur la sécu est forcément tombé sur ce genre de propos. Contre cela, ce que le patronat a construit, c'est du « j'ai cotisé, j'ai droit ». Donc, non pas la poursuite du salaire qui, si on l'institue, change la définition du travail. Travail a changé la définition du travail. Ça se change, c'est séculaire, hein, les changements de ce genre de choses. En disant que les retraités travaillent, en ce moment, je suis en train de produire de la valeur économique. Je ne suis pas objet de la solidarité intergénérationnelle. Ça, c'est la logique que promeut la classe capitaliste. Si je ne suis pas dans l'emploi, je ne suis pas productif. Donc, un retraité ne peut avoir comme ressource que le différé de son salaire passé. La cotisation, là, n'est plus du tout une cotisation salaire qui paye du salaire. C'est une cotisation prévoyance, c'est une euphémisation de l'épargne. C'est pour ça que les réformateurs préconisent que chacun ait un compte, hein, si vous prenez la CFDT, le PS, l'UMP, le Front National, le MEDEF, vous avez ce discours-là, chacun a un compte, et sur ce compte, on comptabilise ses cotisations. Et l'idéal de justice, c'est l'équité intergénérationnelle qui fait que chaque génération récupère sa mise. À travers les cotisations des actifs actuels, on récupère ces cotisations passées. C'est pour cela que la somme des pensions doit être égale à la somme des cotisations. Vous êtes là, on est chez Piketty, qui est le penseur en chef de la réforme aujourd'hui, hein, dans son bouquin de 2008 aux éditions d'Ulm, pour une réforme des retraites, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, où il préconise plus que le modèle suédois. Le modèle suédois, c'est chacun un compte, et lorsqu'on liquide sa pension, on divise par l'espérance de vie de la cohorte. Vous voyez bien que la somme actuarielle, bien sûr, on peut casser sa pipe le lendemain ou vivre plus que les 18 ans en moyenne de la cohorte, bien sûr, mais la somme actuarielle des pensions doit être égale à la somme des cotisations. La rente annuelle des pensions est obtenue par la division du compte des cotisations par la l'espérance de vie. Alors Piketty dit c'est injuste parce que l'espérance de vie ouvrière est de 7 ans à 65 ans inférieure à celle des cadres. Donc il faut que les dénominateurs soient fonction de la catégorie sociale. Il propose une vingtaine de catégories sociales. Et supposons donc qu'on prenne notre retraite à 65 ans, c'est le cas suédois, c'est 65 ans, en France c'est 61 ans et demi. À 65 ans, eh bien, on sait que l'espérance de vie de ceux qui sont nés en 49 et qui prennent leur c'est encore vivant en 2014, mettons de 18 ans, eh bien, on divisera par 15 le compte des cadres et par 22 le compte des ouvriers. Nous sommes dans l'équité intragénérationnelle. Hein. Le mot équité étant toujours derrière ces logiques hein, où il s'agit de reconnaître des besoins, de différer des ressources et non pas de changer la définition du travail par du commun, hein, par la mutualisation de la valeur ajoutée, par la mise en commun de la valeur ajoutée, non pas sous l'égide de l'État. Je conclue sur ce point d'ailleurs. Je ne peux pas parler des chômeurs si quand même, avant de conclure, Les chômeurs, quel est l'enjeu de classe sur les chômeurs aujourd'hui? Les chômeurs ont-ils droit au salaire ou ont-ils droit à l'emploi? C'est la réponse capitaliste, ils ont droit à l'emploi. Et c'est tout le conflit sur les intermittents du spectacle. Qu'est-ce que dit la CFDT et le PS? Bien sûr que entre deux cachets, les intermittents travaillent. Mais dans ce cas-là, qu'ils aient un employeur. On ne travaille pas en dehors d'un employeur. Il n'y a pas de raison que ce soit la mutualisation de la valeur ajoutée qui finance le salaire à vie des intermittents du spectacle. Je rappelle qu'ils gagnent en moyenne 22 000 euros par mois, 11 000 par les cachets, 11 000 par l'UNEDIC. On a une anticipation extrêmement intéressante hein, d'un commun qui libère de l'employeur, qui libère de la vie du marché du travail, qui libère de la marchandise capitaliste, qui libère de tout un tas de choses, hein, qui libère le travail hein, et qui est combattu, mais férocement, bien sûr, par les réformateurs. Au nom de l'emploi. Je conclue donc sur ce que je voulais dire sur le commun. On oublie complètement, lorsqu'on cherche comment la société civile pourrait, par des communautés auto-constituées, élaborer des règles. Nous avons cette expérience exceptionnelle. De 1945 à 1960, dès que De Gaulle arrive au pouvoir, il met fin à cette affaire, bien sûr. De 1945 à 1960, l'équivalent du budget de l'État, a été géré par des salariés élus tous les 5 ans dans des élections qui étaient des événements politiques majeurs, et ce qu'on appelait les élections sociales, qui élisaient les directeurs de caisse, qui avaient tout pouvoir, ces conseils. Ils élisaient les directeurs de caisse. Et ça a parfaitement fonctionné. Nous avons là des exemples de démocratie sociale dont, évidemment, le souvenir est totalement enfoui parce qu'il ne faut pas que ce commun-là, c'est pas l'État, nous sommes bien dans du commun. Nous sommes dans du commun. Alors ça a fonctionné, il faut quand même mettre le bémol, pas au point que les syndicats le défendent lorsque De Gaulle le met en cause. Et dans le conflit de 68, le constat de Grenelle, nous sommes pourtant au lendemain des ordonnances 67 qui suppriment les élections et qui introduisent le bipartisme, les trucs à la Delors, là, les partenariats sociaux, quand il y a moitié de patrons, moitié d'employeurs, c'est-à-dire gestion par les employeurs toujours, le syndicat ne se bat pas pour la suppression des ordonnances, qui montre bien l'extrême difficulté de faire du commun. Je terminerai là-dessus.